Bienvenue dans Le Love à la Bouche, le podcast qui célèbre ta puissance féminine et t'invite à savourer chaque instant de ta sexualité et de ta vie avec joie et confiance. Je suis Lauriane Westrich, coach en émotion et en sexualité féminine. Grâce à des partages personnels, des témoignages inspirants, prépare-toi à embarquer dans un voyage intime où le plaisir et l'épanouissement personnel seront au rendez-vous. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Je te laisse profiter de la suite, la deuxième partie de l'entretien que j'ai eu avec Lucille.
Donc toi, tu n'influences pas pour le fait de maximiser le confort en plus des autres critères.
Alors, à titre personnel, ayant passé la trentaine, je suis pour le confort plus. Et je ne peux que encourager les femmes et les hommes et les personnes non binaires qui nous écoutent à privilégier un maximum de confort. Je suis contre l'adage « il faut souffrir pour être belle ». Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment de marques de vêtements qui nous proposent des solutions, qui nous permettent de nous sentir beaux, belles, tout en étant confortables. Ceci étant dit, s'il s'avère que je suis amenée à accompagner des clientes ou des clients qui ne partagent pas ma vision, ce n'est pas à moi de les juger et d'essayer de les convertir. Donc, s'il y a des personnes que j'accompagne pour lesquelles l'esthétique est primordiale par rapport au confort et que si elles ont flashé sur telle robe hyper moulante, hyper cintrée, hyper serrée, parce qu'elles la trouvent canon et qu'elles savent que si elles vont la porter, elles vont se sentir hyper belles et que pour cette raison, elles sont prêtes à ne pas pouvoir manger un Big Mac avec cette robe, okay. Et ben je vais leur proposer cette robe-là. Ce n'est pas à moi d'en juger encore une fois. Mais à l'inverse, j'ai récemment accompagné une cliente qui avait besoin de refaire toute sa garde-robe, qui avait ce désir d'élégance, mais elle avait aussi besoin d'un certain confort en termes de matière naturelle parce qu'elle habite dans le sud de la France où il fait extrêmement chaud. Parce qu'il s'avère qu'elle a des règles extrêmement douloureuses et que son ventre est ballonné une fois par mois et que même si elle a une morphologie en 8 et que du coup, le conseil pour valoriser cette morphologie en 8, c'est plutôt de cintrer au niveau de la taille, bah là, il fallait trouver des manières de cintrer pour mettre en valeur sa morphologie sans pour autant la saucissonner pour que du coup, quand elle a ses règles et son ventre qui gonfle, elle puisse quand même rester confortable. Et c'est là que mon rôle de conseillère en image entre en ligne de compte et que c'est mon métier de faire les recherches qui vont correspondre à tous ces petits critères que dont mes clients et mes clientes ont besoin.
Ouais, c'est super chouette ça de pouvoir englober toutes ces caractéristiques. Et j'aurais voulu ouvrir la question du rapport à la couleur. Je suis sensible, on parle beaucoup d'uniformisation dans la société avec beaucoup de styles qui se ressemblent. J'ai vu des reportages sur nos mondes dans nos villes qui deviennent beiges en fait, beiges et grises, avec le noir et ce qu'il y a de plus élégant, le bleu marine et assez peu de couleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu un mot, l'impact que ça a sur nous? Le rapport à nos émotions, à comment on sent.
Oui, bien sûr. Alors, je peux t'en dire un mot dans le sens où moi aussi, j'ai été exposée à ce type de production culturelle et du coup, je suis consciente de ce sujet, de cette thématique. Par contre, je ne suis pas une experte du sujet, je ne suis pas une théoricienne de la couleur, donc je ne pourrais pas forcément documenter de manière scientifique la réponse que je vais t'apporter. Mais oui, bien sûr, on voit bien, justement, dans ces différents types de reportages dont tu m'as parlé, que moi aussi, j'ai visionné de mon côté, qu'on vit dans un monde qui a tendance à uniformiser tout et à décolorer tout, que ce soit dans le design d'intérieur, la décoration, l'habillement, les voitures, même les carrosseries de voitures, et que ça ne fait pas forcément du bien au moral. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi, c'est Lorraine du compte Instagram Soyons Élégantes. Je crois que tu la connais, mais j'aime beaucoup son compte. J'adore. Donc, si vous voulez vraiment creuser le sujet, je vous invite à aller voir le compte Instagram de ma consoeur, à qui je passe un petit coucou si jamais elle écoute cet épisode. Moi, ce que je peux dire à titre personnel et individuel, c'est que je me suis rapidement rendu compte que la couleur avait un impact sur comment je me sentais. Et que effectivement, plus j'ai des couleurs dans mon quotidien, que ce soit dans mon intérieur ou que ce soit sur les vêtements que je porte, plus ça me met entre guillemets du baume au cœur ou plus ça va alimenter ma joie de vivre. Et à titre personnel, je choisis notamment mes tenues le matin en fonction des couleurs que j'ai envie de porter. Et j'ai envie de porter certaines couleurs en fonction de mon état émotionnel du matin. Et moi, je vais vraiment utiliser la couleur comme une solution à mon état émotionnel. C'est-à-dire que si je sens que voilà, je suis fatiguée ou je me suis levée du mauvais pied ou autre, au contraire, je vais essayer de contrecarrer ça avec des tenues assez colorées qui vont m'apporter du peps, de la joie de vivre. Et souvent, ça peut avoir un impact sur mon état émotionnel et m'aider à faire... m'aider à vibrer avec une énergie plus haute.
Je trouve ça hyper intéressant. Et la question qui m'est venue en t'écoutant, là, c'était comment on fait quand émotionnellement, ou alors par goût aussi esthétique, on a une attirance vers un certain type de couleur. Tu m'as laissé entendre que les couleurs douces m'iraient mieux, mais j'aime les couleurs vives, le fuchsia, le turquoise, des couleurs qui vibrent et qui sont intenses et peut-être trop du coup par rapport à ma carnation et la colorimétrie. Et du coup, comment on fait pour allier les deux ?
J'adore cette question. Parce que c'est une question qui revient souvent. Et c'est vrai que en tant que conseillère en image, je communique beaucoup sur la colorimétrie parce que on va pas se mentir, c'est un petit peu la part de mystère qui attire les gens, et les gens en sont assez friands, et moi ça m'éclate de créer des contenus sur le sujet. Mais effectivement, c'est une question qui revient souvent sur comment on fait quand on a une saison colorimétrique qui ne correspond pas forcément à nos goûts personnel. Et moi, je suis comme toi, je pense qu'on est toutes les deux des colorimétries automne doux, c'est-à-dire des personnes qui doivent principalement porter des couleurs très atténuées, donc l'inverse des couleurs vives, et des couleurs chaudes, donc des couleurs qui ont davantage de pigments jaunes que bleus près de leur visage, alors qu'en fait, on aime toutes les deux les couleurs vives, flashy, qui pètent, qui pop, etc. Moi, ma réponse à ça, c'est porter les couleurs dans lesquelles vous vous sentez bien, porter les couleurs qui vous font du bien. La colorimétrie, c'est super. Ça donne beaucoup d'infos sur comment se mettre en valeur quand, grosso modo, on n'a pas dormi cette nuit, qu'on s'est levé en retard, qu'on n'a pas le temps de se maquiller le matin et qu'on a une tête de déterré. Quel pull j'enfile en priorité dans mon armoire ce jour-là en deux vitesses pour me donner ce petit coup de boost à mon teint. Mais la colorimétrie, c'est pas là pour vous enfermer dans une catégorie de couleurs qui vous plaît pas. Si votre saison colorimétrique ne vous plaît pas, vous pouvez très bien vous dire comme moi, je vais me faire des colorations capillaires ou je vais faire mon maquillage en fonction de ma colorimétrie, mais par contre, je choisis de porter les couleurs qui me font plaisir, qui me font du bien, et tant pis si elles sont à l'inverse de ma colorimétrie. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je me positionne et c'est vraiment comme ça que je conseille mes clientes et mes clients. Et d'ailleurs... c'est très marrant que tu mentionnes ça parce que quand j'ai refait ma photo Instagram pour mon compte professionnel, j'ai décidé de la faire selon ma colorimétrie. Et donc, je m'étais habillée avec les couleurs de ma colorimétrie, je m'étais maquillée selon les couleurs de ma colorimétrie, j'avais mis un fond dans ma colorimétrie, etc. Bref. Et donc, j'ai fait une photo qui était très jolie et je l'ai mise en photo de profil sur Instagram. Et j'ai eu l'occasion d'animer un week-end d'activité, de retraite pour maman, qui avaient besoin de reprendre du temps pour soi et de reprendre soin de soi. Et lorsqu'elles ont regardé ma photo de profil Instagram, à la fin du week-end, elles m'ont dit « C'est drôle, mais maintenant qu'on te connaît, je trouve que ça ne te correspond pas du tout. » Alors j'ai ri. J'ai ri parce que je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, je suis conseillère en images, j'ai mis un soin tout particulier à faire une photo qui soit dans les couleurs de ma colorimétrie, donc normalement ça devrait être la photo qui me met en valeur, etc. Et le retour que me faisaient les différentes participantes du week-end, c'est que certes c'était une belle photo, mais que ça ne me correspondait pas du tout, ça ne représentait pas du tout ma personnalité haute en couleurs et mon côté un peu solaire et rayonnant qu'elles avaient pu voir pendant le week-end. Et comme tu le sais, je suis actuellement en train de retravailler mon identité visuelle. Et hier, j'ai mis en ligne une nouvelle photo dans laquelle je porte un haut bustier rose fuchsia, une veste de blazer orange corail, et j'ai mis un fond bleu pâle. Et je porte des boucles d'oreilles rouges, je crois, et du rouge à lèvres rouge. Et cette photo, je l'adore. Je trouve que c'est ça qui me correspond trop. Et d'ailleurs, je l'ai publié en story. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour demander ce que les gens en pensaient. Et la majorité m'a répondu qu'ils préféraient cette nouvelle photo que l'ancienne. Et pourtant, cette nouvelle photo n'est absolument pas dans ma colorimétrie. Mais je pense que comme je porte les couleurs dans lesquelles je rayonne le plus, c'est ce qui me va le mieux. Et au final, c'est ça le plus important. Donc au final, tout ça pour dire, la colorimétrie, c'est bien. Mais portez les couleurs dans lesquelles vous vous sentez bien. C'est ça le plus important.
Ouais, c'est chouette. J'aime bien le résumé et l'image par rapport à cette photo de profil qu'on pourra aller voir sur son Instagram. Et je me suis demandé comment on pouvait, par quoi on peut commencer pour assumer les couleurs quand on n'a pas du tout l'habitude? Par quoi on peut commencer?
Déjà, pour répondre à cette question, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas obligé de porter de la couleur. C'est-à-dire, chacun porte les couleurs qu'il a envie de porter. Et par couleur, on peut entendre plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut aimer les couleurs vives, mais on peut aussi aimer les couleurs pastel, ou alors on peut aimer les couleurs un petit peu plus sombres, comme le bordeaux, le bleu canard, le vert sapin, etc. Chacun met où il en a envie le curseur de couleur dans sa vie. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'avais fait justement une vidéo Instagram en ce sens. Moi, mon conseil, c'est d'y aller progressivement et par petites doses. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de toujours vous habiller avec une ou certaines couleurs, c'est du jour au lendemain d'apporter peut-être un accessoire qui est dans la nouvelle gamme de couleurs que vous avez envie d'intégrer progressivement dans votre garde-robe. Et puis ensuite, un deuxième. Et puis ensuite, un troisième. Et petit à petit, d'y aller à votre rythme. Et surtout, de ne pas faire... En tout cas, moi, je ne conseillerais pas de faire un changement radical du jour au lendemain, parce que ça risque de vous faire peur. Ça risque de vous faire péter la rétine, comme dit Lorraine, je crois, du conte Soyons élégantes. Et du coup, de vous faire rétro-pédaler en arrière le plus vite possible et de repartir dans vos vieilles habitudes. Donc moi, je suis tout à fait partisane de allez-y en douceur, progressivement, petit pas par petit pas, pour habituer votre cerveau petit à petit à vous voir porter de la couleur et ensuite d'augmenter les doses, entre guillemets, progressivement.
Donc on y va pas à pas. Ok, super, c'est trop chouette comme partage, je te remercie. Il y a une thématique qui est chère à mon cœur, donc qui est la sexualité féminine. Et donc j'aurais envie d'aborder ces sujets-là avec toi et avoir ton avis pour en quoi notre rapport à la sexualité conditionnerait notre rapport à notre image corporelle.
Déjà, il y a l'approche qui n'est pas personnelle du coup, qui est... tout simplement tout ce que la société nous met en tête sur comment doit être notre image par rapport aux attentes sensuelles et sexuelles de la société. Encore une fois, je ne suis pas sociologue et je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je ne pense pas me tromper en affirmant qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui met beaucoup d'attentes et beaucoup de poids sur les épaules des femmes comme des hommes sur ce à quoi ils devraient ressembler pour correspondre aux attentes éventuelles d'un partenaire amoureux et ou sexuel. Et du coup, c'est clair que notre rapport à notre image et à notre manière de nous habiller est conditionné par rapport à tout ce à quoi on est exposé, que ce soit les pubs à la télé, que ce soit les films qu'on regarde, les séries qu'on regarde, les pubs sur les abribus, tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc tout ceci va énormément jouer sur notre rapport à notre image et à notre corps. Soit qu'on veuille s'y conforter, soit au contraire qu'on veuille se construire à rebours de tout ça. C'est-à-dire qu'on le rejette massivement et qu'on veuille se construire à contre-courant de tout ça. Mais en tout cas, on se construit en réaction à ce à quoi on est exposé. Je pense, à mon sens, à toutes les images auxquelles nous sommes exposés depuis qu'on est né et auxquelles on est exposé tout au long de notre vie. Moi, j'ai des valeurs féministes qui sont importantes et chères à mon cœur et je trouve que en tant que femme, il y a énormément d'injonctions qui pèsent sur les femmes dès l'enfance, dès l'adolescence, et ça continue tout au long de notre vie de femme, sur ce à quoi on devrait ressembler pour plaire au male gaze. Je ne vais pas débattre de ces notions-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de contenu et de production culturelle qui existent sur le sujet. Mais voilà, c'est certain qu'il y a énormément de femmes, y compris par mes clientes, qui s'habillent en fonction de ce qu'elles croient qui est attendu d'elles pour plaire, que ce soit plaire à un partenaire amoureux, mais plaire aussi à un groupe d'appartenance sociale ou plaire à un environnement professionnel, etc., etc., et qui, du coup, ne s'habillent pas forcément en cohérence avec comment elles se sentent à l'intérieur, leur personnalité ou leur goût personnel. Et là, je prends l'exemple d'une femme, parce que moi, je suis une femme cisgenre qui se reconnaît dans son genre de femme. Mais je pense que c'est la même chose pour les hommes tout autant. Et je pense que du coup, la question est encore plus compliquée pour les personnes, justement, non-binaires. Je pense que c'est pas forcément évident dans une société comme la nôtre de savoir comment s'habiller en fonction de ce qui nous ressemble et moins en fonction de ce qui est attendu par la société. Et ensuite, pour moi, il y a une deuxième réponse à cette question qui est beaucoup plus personnelle et propre à chaque individu. Je vais juste prendre mon exemple personnel parce que je voudrais pas parler pour d'autres personnes, parce que je pense que chaque rapport à la sexualité de chaque personne est différent, et je voudrais pas m'arroger des prérogatives qui ne me reviennent pas. Mais à titre personnel, par exemple, ce dont je peux témoigner, c'est que quand j'étais enfant, à l'école, je subissais beaucoup de harcèlement sexuel parce que j'étais une petite fille. J'avais des garçons qui avaient 1 ou 2 ans de plus que moi et qui, quand j'étais à l'école primaire, me mettaient la main aux fesses, par exemple, quand je passais dans les rangs de la classe pour distribuer les copies de contrôle que la maîtresse avait corrigées, par exemple. Ou alors, je sais que quand ma mère m'habillait en jupe, que les garçons, à l'époque, voulaient s'amuser à soulever ma jupe pour voir ma culotte. Et d'ailleurs, j'étais absolument pas la seule. Bref, plein de petites anecdotes comme ça qui font que, en ce qui me concerne, quand je me suis construite en tant qu'adolescente, quand j'ai grandi, eh bien, je ne voulais surtout pas m'habiller en fille, en femme. Je ne voulais surtout pas m'habiller en robe et en jupe. Je ne voulais surtout pas être féminine, parce que pour moi, être féminine, ça voulait dire être synonyme de proie sexuelle pour des personnes qui ont envie de me harceler, de m'embêter. Et donc, du coup, je voulais surtout pas leur tendre la perche par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui m'a pris quand même pas mal de temps à déconstruire, parce qu'en fait, déjà petite fille, j'étais déjà dans une construction de mon identité vestimentaire par rapport à comment les autres me voyaient et qu'est-ce que ça allait entraîner comme comportement chez les autres. Donc, j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir expérimenté cela, et je laisserai tes auditrices te laisser leur témoignage en commentaire ou pas. Mais en ce qui me concerne, je sais que mon rapport aux vêtements a toujours été conditionné à mon rapport à ma sexualité et à mon genre, soit parce que quand j'étais plus jeune, j'avais le désir de ne pas plaire pour ne pas me faire embêter, et donc du coup, je ne voulais surtout pas m'habiller de manière sexualisée, de manière féminine et de manière voyante. Je voulais surtout pas qu'on me remarque, et donc je m'habillais dans ce sens-là. Et puis à un moment donné, à l'adolescence, j'ai pris le contre-carré par rapport à tout ça. J'ai décidé, j'ai pris la ferme décision de ne plus en avoir rien à faire du regard des autres et de m'habiller comme j'en avais envie. Et limite, j'allais m'habiller pour provoquer les autres, et je les défiais de venir m'embêter par rapport à mon habillement. Et donc je suis partie un petit peu dans un autre extrême où là, au contraire, j'étais très à l'aise avec le fait de m'habiller avec des jupes courtes, des décolletés, des talons, ou de m'habiller de manière voyante, ou alors d'avoir des choix vestimentaires, on va dire, un peu plus osés ou excentriques, peu importe. Mais justement, parce que là, j'étais dans cette revendication de moi-même, et je défiais intérieurement, parce que les gens n'en savaient absolument rien, mais je défiais les autres, hommes ou femmes, de venir me dire quoi que ce soit par rapport à ma manière de m'habiller. Et voilà, et pour moi, c'était un petit peu un challenge personnel de me dire non, je ne vais pas ne pas m'habiller en robe, je ne vais pas m'habiller en jupe, et je ne vais pas ne pas mettre des talons parce que j'ai peur de venir me faire embêter dans la rue. Et donc je mettais un point d'honneur à m'habiller comme ça quand je sortais et à marcher la tête haute sans baisser les yeux et sans regarder le trottoir pour dire un peu au monde « Et si vous n'aimez pas, eh ben c'est tant pis et je vous... » Donc voilà, ça c'est pour mon expérience individuelle par rapport à la sexualité. Je trouve que effectivement notre rapport à notre manière de nous habiller peut être conditionné à notre sexualité, soit qu'on veuille plaire, ou soit au contraire qu'on aille à l'inverse de vouloir plaire.
C'est hyper intéressant ce que tu partages, et j'avoue que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, avec c'est vrai, surtout sur le passage adolescence et même jeune adulte, de presque en faire beaucoup et dépasser des limites que aujourd'hui pas que je me pose mais qui me correspondent en fait, avec plus d'accueil de qui je suis aujourd'hui, avec plus une certaine douceur, parce que je ressens plus le besoin de porter du extra court pour limite avoir un côté revanchard en fait, et provoquer en fait autour de moi, et ce truc d'avancer tête haute et brusquer un peu. J'ai toujours eu plutôt des formes, et ça ajoute peut-être, je sais pas, mais en tout cas dans mon histoire, le fait de pas correspondre à une fille très fine et donc avec une certaine discrétion dans la silhouette, du coup le court et le décolleté, ça bousculait beaucoup plus encore autour de moi. encore plus dans les générations précédentes. J'ai fort gêné ma grand-mère parce que j'étais trop ronde pour porter aussi peu de tissu.
Nos grand-mères, on les aime, mais elles ont des références esthétiques et culturelles d'un ancien temps.
Ça me fait penser à un détail qu'elle m'avait dit, que le rouge à lèvres rouge, c'était du rouge à lèvres d'une prostituée.
Mais c'est, figure-toi que c'est hyper intéressant ce que tu me dis là, parce que je me souviens de mon premier cours de colorimétrie à la formation que j'ai faite, où on a la formatrice a abordé la signification symbolique des couleurs selon notre patrimoine historique et culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les couleurs véhiculent dans l'inconscient collectif certaines connotations, c'est parce que ça vient de notre histoire, de nos références culturelles et de comment ça s'est transmis de génération en génération, ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi ta grand-mère te dit que le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres d'une prostituée ? Et figure-toi que cette formatrice que j'adorais, que je trouvais hyper intéressante, nous avait expliqué de manière très raccourcie et abrégée l'histoire du rouge par rapport au fait que, au départ, le rouge, il me semble que le rouge, le rose, c'était la couleur de la royauté. Et puis que petit à petit, ça a été repris par les filles de joie. Et donc, à une certaine époque, les courtisanes, les prostituées, etc., avaient la consigne de s'habiller en rouge pour qu'elles soient plus facilement reconnaissables dans la rue et qu'on ne puisse pas les confondre avec des dames respectables. Et à l'inverse, ce qui est intéressant d'étudier, c'est que les couleurs n'ont pas la même connotation en fonction de qui elles sont portées. C'est-à-dire que chez les femmes, ça va être associé à de la séduction, de la sensualité, voire de la provocation et de la vulgarité, alors que chez les hommes, c'est beaucoup plus associé à du pouvoir, de la puissance, de l'autorité, du leadership, etc. Et donc, je me souviens vraiment très bien, pendant ce cours de colorimétrie, elle nous avait expliqué qu'en général, on déconseillait de porter du rouge en entretien d'embauche. Et moi, j'avais eu une réaction, mais outrée en entendant ça, parce que moi, j'adore le rouge. C'est vraiment la couleur qui me donne une patate au quotidien, mais à tel point que mon CV était fait en rouge bordeaux, pour te dire. J'ai, je pense, une dizaine de robes rouges dans mon armoire. J'ai un manteau rouge, mais vraiment d'un rouge flamboyant, en mode petit chaperon rouge. Enfin bref, j'adore le rouge. Et j'étais outrée, parce que je lui disais, mais si moi, le rouge, c'est ma couleur qui me fait me sentir bien et qui correspond à ma personnalité, pourquoi je devrais m'interdire de porter ça en entretien d'embauche ? Et donc là, la formatrice nous avait expliqué toutes les connotations qu'il y avait derrière l'histoire de la couleur rouge et du coup, le fait que ça puisse générer dans l'esprit de notre interlocuteur une gêne, un sentiment de mal à l'aise, de se dire « bah cette personne, elle s'affirme trop » ou alors « c'est trop agressif », etc., etc. Et je m'étais dit « mais moi, je n'ai pas envie d'aller travailler avec des gens qui vont se mettre à penser ça juste parce que je porte du rouge !» Et bref, et c'est là que, grosso modo, c'est un peu un savant mélange à trouver, dans le sens où je rêverais qu'on vive dans un monde parfait et idéal et bisounours où on pourrait porter tout ce qu'on veut sans que ce soit sujet à interprétation par les gens qu'on a en face de nous. Mais ceci est une utopie, ceci n'est pas la réalité. Et donc, je pense que tout réside dans la vie, dans l'art, à trouver l'équilibre sur qu'est-ce qu'on peut se permettre de porter qui correspond à notre personnalité, mais qui s'adapte aussi à l'environnement dans lequel on évolue, non pas pour plaire aux autres et pour coller à ce qui est attendu par les autres, mais simplement pour que ça ne nous joue pas de détour, pour que ça ne joue pas contre nous, pour qu'on puisse rester un peu maître et maîtresse du game et que ce soit nous qui tirions les ficelles de telle ou telle situation. Et typiquement, quand on est en entretien d'embauche, on a tous et toutes envie de faire une bonne impression. Donc, si ça veut dire ne pas porter un tailleur rouge, ok, ne portons pas un tailleur rouge. Par contre, peut-être que rien ne nous empêche de mettre, je sais pas moi, une cravate rouge par exemple, ou un petit bijou rouge, etc. Bref, d'avoir le rouge présent et qui correspond à notre personnalité. Mais du coup, c'est très drôle que tu relèves la question de la couleur rouge parce qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport à cette couleur et moi notamment, ça m'avait outrée pendant ce cours de colorimétrie.
Et c'est super rouge et probablement dans ton identité visuelle, si je ne m'abuse.
Exactement, et dans les boucles d'oreilles que je porte sur ma photo de profil.
Et en fait, ça rejoint la thématique de la dernière question, qui est le fait de se détacher des injonctions sociales tout en étant au plus près de qui on est soi-même. Mais effectivement, tu soulèves le fait que voilà, on vit dans une société, on vit tous ensemble. C'est une illusion de croire qu'on peut porter tout ce qu'on veut, mais que ça n'aura pas d'impact autour de soi. C'est illusoire de penser ça et ce serait donc à prendre en compte Après, à voir à quel pourcentage on prend en compte, en gros, la colorimétrie, l'impact que ça a émotionnel sur nous, notre confort, mais aussi l'impact que ça a sur les gens autour de nous. Donc on fait des choix de porter du rouge à un enterrement ou alors d'être sagement en petite robe noire.
Porter du rouge à un enterrement. Non, mais encore une fois, ta question, elle est hyper intéressante. Et j'ai envie de te dire, ça dépend l'enterrement de qui et ça dépend l'enterrement selon quelle culture.
C'est ça, ouais.
Parce que je ne suis pas du tout une fine connaisseuse de toutes les cultures qui existent dans ce monde, mais je me doute qu'il doit bien y avoir des cultures dans lesquelles, en enterrement, on peut ou même on doit porter du rouge, je ne sais pas. Mmh. Et donc, chacun fait comme il en a envie. Ou alors, tout simplement, si vous avez à l'enterrement d'une personne qui a doléré le rouge et qui a donné pour consigne à tout le monde de venir habiller hyper coloré, mais allez-y, portez du rouge. Bon, bref, je pense qu'on va arrêter avec le rouge parce que...
Non, mais ça marche pour deux couleurs.
Ça tourne à l'obsession.
Mais c'est l'idée de se conformer à 100% à ce qu'on attend de nous à l'extérieur ou oublier à 100% ce qu'il y a autour de nous. Il y a, comme tu disais, un savant dosage entre les deux à trouver en fonction de l'environnement. Si on va à un entretien d'embauche, un enterrement de vie de jeune fille ou un premier date, on s'adapte en fait.
En fait, tu l'as très bien expliqué. Ça dépend, tout revient à... Ça dépend de notre objectif d'image, c'est-à-dire quelle image on veut renvoyer. C'est ça, finalement, la vraie question à se poser. Et on a le droit de vouloir renvoyer une image qui est à 100% en adéquation avec comment on se sent à l'intérieur, qui on est d'un point de vue de notre personnalité, et d'être totalement transparente et d'avoir un style vestimentaire, une apparence extérieure qui reflète à 100% qui on est. On a aussi le droit de ne pas avoir envie d'être en totale transparence des environnements socio-professionnels dans lesquels on se trouve, et de vouloir un petit peu plus d'oser. Moi, il y a plein de situations professionnelles dans lesquelles je n'avais pas forcément envie de me montrer sous toutes mes facettes avec les personnes avec lesquelles j'interagissais, et c'est bien normal. Et on a le droit aussi de se dire que qui on est, c'est notre jardin secret, et que quand on est en société, on n'a pas du tout envie de montrer ça. Chacun décide de ce dont il a envie. Par contre, là où c'est intéressant de se poser la question, c'est quand il y a un malaise, quand il y a un mal-être, quand on se sent pas bien parce qu'on a l'impression qu'il y a un désalignement entre comment on se sent à l'intérieur et l'image qu'on reflète à l'extérieur, et que ce désalignement nous procure un mal-être, là c'est intéressant de se poser la question sur effectivement qu'est-ce qu'on a envie de renvoyer et comment on a envie de le renvoyer. Et quand on se pose cette question-là, ce qu'il est finalement intéressant de remettre en perspective, c'est notre objectif. Et en fonction de notre objectif, si notre objectif, c'est davantage d'aller vers le côté « je m'intègre » ou davantage d'aller vers le côté « je revendique ma différence », chacun place le curseur où il veut entre ces deux pôles. Et en fonction de là où est placé le curseur, là, on peut mettre les actions en place dans notre apparence et notre style vestimentaire pour atteindre cet objectif-là. Mais ce n'est pas à moi, ni aux autres d'ailleurs, de nous dire où est-ce qu'on doit placer cet objectif-là. Et je pense que dans notre société, on a perdu de vue cette individualité, à savoir que c'est à nous, en tant qu'individus, par rapport à nous-mêmes, de placer ce curseur là où on a envie. Et je pense qu'on vit tellement dans une société d'apparence qu'on a pris l'habitude de placer le curseur en fonction de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, plutôt qu'en fonction de qu'est-ce que nous, on a envie de renvoyer par rapport aux autres. Et c'est ça, je trouve, finalement, qui est le plus important. Et moi, mon rôle de conseillère en image, c'est de sensibiliser par rapport à ça. C'est de dire... Oui, je vous encourage le plus possible d'avoir un style vestimentaire qui reflète votre personnalité, qui est aligné avec qui vous êtes à l'intérieur. Par contre, je sensibilise aussi par rapport au fait que notre apparence extérieure, comme son nom l'indique, est à l'extérieur. Et donc nécessairement, ça aura toujours, qu'on le veuille ou non, un impact positif ou négatif sur les personnes auxquelles notre apparence est exposée. Et donc... Partant de ce constat, c'est bien de l'avoir en tête, et en l'ayant en tête, on peut soit décider d'en avoir rien à faire, parce que ça ne sert pas notre intérêt, ou alors on peut décider de s'y adapter un tout petit peu, parce que ça sert notre intérêt, ou alors on peut décider de s'y adapter beaucoup, parce que ça sert grandement nos intérêts. Mais c'est à chacun de décider vis-à-vis de lui-même sur à quel point il a envie d'adapter son apparence extérieure pour qu'ils puissent plus ou moins s'intégrer dans la société. C'est humain et naturel, je crois que ça fait partie des... Alors, pas des besoins primaires, mais dans la pyramide de Maslow, il y a le besoin d'appartenance, il me semble.
Oui, tout à fait.
Et c'est normal de vouloir s'intégrer dans un groupe. Et il n'y a pas photo, souvent pour s'intégrer dans un groupe, il faut se fondre dans le moule. Et c'est souvent le message avec lequel on grandit et on évolue en société. Et c'est ça qui nous pousse à vouloir rentrer dans certains codes, rentrer dans le moule pour être intégré à un groupe et se faire accepter et ne pas se faire rejeter. Mais à l'inverse, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a justement des personnes qui sont adorées et admirées par les gens parce qu'elles revendiquent fièrement leurs différences. Et je trouve que c'est génial qu'elles envoient un message hyper positif. Là où moi, j'ai une vision, on va dire, un petit peu plus humble de cette réalité-là, c'est que tout le monde n'est pas un Steve Jobs en puissance, en fait. Et que parmi mes clients ou mes clientes, bien sûr que je les encourage à assumer le plus possible qui ils sont et qui elles sont, mais encore une fois, c'est un cheminement qui est très personnel, qui est très individuel, qui, à mon avis, se fait sur le long terme. Et tout le monde ne peut pas s'assumer à 3200% du jour au lendemain. C'est pas vrai, tout le monde n'a pas une âme de leader charismatique, hyper différenciant et éclectique, non. C'est faux. Il y a des gens qui sont très bien dans le fait de rentrer dans le moule. Et si ça leur correspond, tant mieux. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je trouve que j'adore tous les discours qui sont tenus dans mon métier sur le body positivisme, l'acceptation de soi, le fait d'oser assumer sa différence. Et moi-même, je tiens ce type de discours parfois. Mais je trouve aussi qu'en fait, il ne faut pas tomber dans une injonction inverse où ça devient un poids pour les personnes qui ont du mal à s'accepter et à assumer leur différence, de se dire « Oh là là !» J'ai pas la force mentale, j'ai pas le courage, j'ai pas l'ambition de m'accepter. Moi, je suis qu'une faible parce que j'arrive pas à accepter ma différence et que je me fonds dans le moule. Et je trouve que du coup, ce type de discours sont bien. C'est des lignes directrices, mais il faut aussi les relativiser parce que c'est OK d'avoir envie de s'intégrer. C'est OK d'avoir envie d'obtenir telle promotion et du coup, de se dire, bah, ça me correspond pas vraiment, mais c'est pas grave, c'est les règles du jeu. Et du coup, je joue, je maîtrise les règles du jeu à mon avantage, mais du coup, c'est moi qui tiens les règles. Plutôt que de subir, entre guillemets. Ouais, et voilà. Pour moi, les vêtements, finalement, c'est un outil et on en fait ce qu'on en veut.
Merveilleux. Merci beaucoup pour tes partages. C'est hyper passionnant. Je pense qu'on pourrait encore parler un bon moment parce que j'aurais encore plein de choses à te demander. Mais bon, voilà, le temps file. Donc, si tu avais un dernier conseil, un dernier message inspirant pour les personnes qui nous écoutent, tu auras envie de nous dire quoi pour finir ?
Alors du coup, ça va aller à l'encontre exactement de ce que je viens de dire. Non, mais j'aurais envie de dire, osez porter ce que vous aimez. Parce que j'entends tellement, mais tellement, le nombre de fois que j'ai entendu dire dans ma vie, par mes proches et mon entourage, ça te va super bien, mais moi, j'oserais jamais le porter. Parce que je suis connue dans mon entourage pour avoir un style vestimentaire un peu osé, un peu haut en couleur, j'aime bien les choses originales qui sortent de l'ordinaire et qui du coup sont un peu voyantes, même si c'est pas l'objectif, mais qui ne passent pas inaperçues. Et donc des choses originales. Et le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase-là dans mon entourage, ça te va super bien, mais moi j'oserais jamais le porter. Donc sous-texté, les gens aiment bien ce que je porte sur moi, mais eux n'oseraient pas, pour mille et une raisons. Et je me dis, mais c'est trop dommage, en fait, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une seule vie. Et en fait, si on n'est pas là pour la kiffer dès maintenant, c'est pas quand on sera mort, justement. Ça sera trop tard pour porter du rouge dans votre cercueil, les gens.
Et alors qu'en fait, typiquement, on joue pas sa vie non plus. On peut faire des essais, on peut tester des choses, on peut s'amuser. Ça peut aussi être juste un jeu de tester des couleurs, des matières, des formes différentes et puis de voir comment on se sent.
Oui, et puis tout simplement, en fait, de porter ce qui nous fait plaisir. Je pense que ça rejoint un questionnement plus global sur notre rapport à notre société où, en fait, quand on se pose la question du nombre de choses qu'on fait par contrainte plutôt que par plaisir, et l'habillement en fait partie. On s'habille comme ci ou comme ça par contrainte parce qu'on doit rentrer dans telle case, parce qu'on veut renvoyer telle image, parce qu'on pense qu'on n'a pas la morphologie pour porter ça, ou parce qu'on pense que telle grande prêtresse de la mode a dit que telle couleur n'allait pas à tel type de personne, et donc du coup, on s'est interdit de le porter. Mais c'est des conneries, tout ça. C'est des conneries. Portez ce que vous aimez. Si vous portez ce que vous aimez, vous allez vous trouver beau ou belle, vous allez vous sentir bien, et vous allez rayonner. Et vous allez dégager une énergie qui pourra ne vous apporter que des choses positives dans la vie. Donc, portez ce que vous aimez. Tu me parlais tout à l'heure, ça me fait penser à une question que tu m'as posée. Les gens qui attendent, par exemple, d'avoir atteint un certain objectif de poids avant d'oser mettre ceci ou mettre cela. Mais c'est tellement dommage. Ça veut dire qu'on est tout le temps dans l'après, on vit tout le temps dans le futur et on n'est jamais dans l'instant présent. Mais si vous avez flashé sur telle robe et qu'aujourd'hui vous faites du 48 et que votre objectif de poids c'est de faire du 46, mais achetez votre robe en 48, et si dans un an vous faites du 46 et que vous avez atteint votre objectif, déjà félicitations à vous si c'était votre objectif, et peut-être que là vous pourrez vous acheter une autre robe ou vous réacheter la même robe en 46 ou la faire reprendre par une couturière. Mais en attendant, la vie passe, les un an sont passés. Donc portez ce que vous aimez, osez porter ce que vous aimez, la vie est trop courte, il faut se faire plaisir.
Ouais. Un immense merci, Lucille, pour le temps que tu as pris avec moi et tous tes partages, tes conseils et ta vision d'un métier qui fait très envie. On a appris plein
merci
de choses.
Merci à toi de m'avoir invitée.
On a appris plein de choses hyper précieuses. C'était vraiment très chouette. J'ai appris des choses aussi personnellement. Et là, aujourd'hui, si on a envie de savoir plus sur toi, de travailler avec toi ou en tout cas te suivre, on s'y prend comment ?
Alors, comme la procrastination est ma meilleure amie, aujourd'hui, pour me suivre ou me contacter, vous pouvez le faire via mon compte Instagram qui s'appelle lucillepaye_conseiller en images. Donc Lucille, L-U-C-I-L-E, Paye, P-A-Y-E. Et si vous voulez me contacter sur LinkedIn, bah, c'est pareil, c'est mon prénom et mon nom de famille parce que je n'ai pas encore sorti mon site internet depuis tous ces mois que je le procrastine, mais ça ne saurait tarder.
Mais d'ici que ce soit posté, il y a des chances que ce soit fait, que tu aies un super joli site.
Et sinon, vous pouvez aussi me contacter par mail à lucillepaye, L-U-C-I-L-E-P-A-Y-E, @gmail.com.
De toute façon, je mettrai tous les liens, tout ce qu'il faut en description pour pouvoir te contacter, venir voir ton super Insta et ton super site et tes prestations. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de ce que tu as partagé avec nous.
Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis hyper honorée d'avoir été invitée sur ton épisode.
Merci pour ton écoute, d'être restée jusqu'au bout avec Lucille et moi. Je te laisse retrouver tous nos réseaux en description. Allez, rejoins-nous vite. Merci d'avoir dégusté chaque bouchée de Lolove à la bouche. Laisse ton plus beau commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify et 5 belles étoiles. C'est un grand soutien pour moi. Si tu veux continuer à savourer mon univers, rejoins-moi sur lunaou-coaching.com pour y lire l'article associé à l'épisode et y trouver de jolis cadeaux. Mais aussi sur Instagram, @lunaou-coach en sexualité. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, danse avec ta vraie nature et embrasse ta sexualité et ta vie avec gourmandise et audace. Bye!